Comme dans un livre, Marie-Christine Loubry. Les liaisons dangereuses, de Pierre Chauderlos de Laclos. Lettre 118. Le chevalier Danceny à la marquise de Merteuil. Si j'en crois mon almanach, il n'y a, mon adorable amie, que 2 jours que vous êtes absente. Mais si j'en crois mon cœur, il y a 2 siècles. Or, je le tiens de vous-même, c'est toujours son cœur qu'il faut croire. Il est donc bien temps que vous reveniez, et toutes vos affaires doivent être plus que finies. Comment voulez-vous que je m'intéresse à votre procès si, père Touguin, j'en dois également payer les frais par l'ennui de votre absence? Oh, que j'aurais envie de quereller, et qu'il est triste avec un si beau sujet d'avoir de l'humeur, de n'avoir pas le droit d'en montrer. N'est-ce pas cependant une véritable infidélité, une noire trahison, que de laisser votre ami loin de vous, après l'avoir accoutumé à ne pouvoir plus se passer de votre présence? Vous aurez beau consulter vos avocats, ils ne vous trouveront pas de justification pour ce mauvais procédé. Et puis, ces gens-là ne disent que des raisons, et des raisons ne suffisent pas pour répondre à des sentiments. Pour moi, vous m'avez tant dit que c'était par raison que vous faisiez ce voyage, que vous m'avez tout à fait brouillé avec elle. Je ne veux plus du tout l'entendre, pas même quand elle me dit de vous oublier. Cette raison-là est pourtant bien raisonnable. Et au fait, cela ne serait pas si difficile que vous pourriez le croire. Il suffirait seulement de perdre l'habitude de penser toujours à vous, et rien ici, je vous assure, ne vous rappellerait à moi. Nos plus jolies femmes, celles qu'on dit les plus aimables, sont encore si loin de vous qu'elles ne pourraient en donner qu'une bien faible idée. Je crois même qu'avec des yeux exercés, plus on a cru d'abord qu'elles vous ressemblaient, plus on y trouve après de différence. Elles ont beau faire, beau y mettre tout ce qu'elles savent, il leur manque toujours d'être vous, et c'est positivement là qu'est le charme. Malheureusement, quand les journées sont si longues et qu'on est désoccupé, on rêve, on fait des châteaux en Espagne, on se crée sa chimère. Peu à peu, l'imagination s'exalte, on veut embellir son ouvrage, on rassemble tout ce qui peut plaire, on arrive enfin à la perfection. Et dès qu'on en est là, le portrait ramène au modèle et on est tout étonné de voir qu'on n'a fait que songer à vous. Dans ce moment même, je suis encore la dupe d'une erreur à peu près semblable. Vous croyez peut-être que c'était pour m'occuper de vous que je me suis mise à vous écrire. Point du tout, c'était pour m'en distraire. J'avais 100 choses à vous dire dont vous n'étiez pas l'objet, qui, comme vous savez, m'intéresse bien vivement. Et ce sont celles-là, pourtant, dont j'ai été distrait. Et depuis, quand le charme de l'amitié distrait-il donc de celui de l'amour? Ah, si j'y regardais de bien près, peut-être aurais-je un petit reproche à me faire. Mais chut, oublions cette légère faute, de peur d'y retomber, et que mon amie elle-même l'ignore. Aussi, pourquoi n'êtes-vous pas là pour me répondre, pour me ramener si je m'égare, pour me parler de ma Cécile, pour augmenter, s'il est possible, le bonheur que je goûte à l'aimer, par l'idée si douce que c'est votre amie que j'aime? Oui, je l'avoue, l'amour qu'elle m'inspire m'est devenu plus précieux encore, depuis que vous avez bien voulu en recevoir la confidence. J'aime tant à vous ouvrir mon cœur, à occuper le vôtre de mes sentiments, à les y déposer sans réserve. Il me semble que je les chéris davantage, à mesure que vous daignez les recueillir. Et puis, je vous regarde et je me dis, c'est en elle qu'est renfermé tout mon bonheur. Je n'ai rien de nouveau à vous apprendre sur ma situation. La dernière lettre que j'ai reçue d'elle augmente et assure mon espoir, mais le retarde encore. Cependant, ses motifs sont si tendres et si honnêtes que je ne puis l'en blâmer ni m'en plaindre. Peut-être n'entendrez-vous pas trop bien ce que je vous dis là. Mais pourquoi n'êtes-vous pas ici? Quoi qu'on dise tout à son ami, on n'ose pas tout écrire. Des secrets de l'amour, surtout, sont si délicats qu'on ne peut les laisser aller ainsi sur leur bonne foi. Si quelquefois on leur permet de sortir, il ne faut pas au moins les perdre de vue. Il faut en quelque sorte les voir rentrer dans leur nouvel asile. Ah, revenez donc, mon adorable ami. Vous voyez bien que votre retour est nécessaire. Oubliez enfin les 1000 raisons qui vous retiennent où vous êtes, ou apprenez-moi à vivre où vous n'êtes pas. Lettre 119. Madame de Rosemonde à la présidente de Tourvel. Quoique je souffre encore beaucoup, ma chère belle, j'essaie de vous écrire moi-même, afin de pouvoir vous parler de ce qui vous intéresse. Mon neveu garde toujours sa misanthropie. Il envoie fort régulièrement savoir de mes nouvelles tous les jours. Mais il n'est pas venu une fois s'en informer lui-même, quoique je l'en ai fait prier, en sorte que je ne le vois pas plus que s'il était à Paris. Je l'ai pourtant rencontré ce matin, où je ne l'attendais guère. C'est dans ma chapelle, où je suis descendue pour la première fois depuis ma douloureuse incommodité. J'ai appris aujourd'hui que depuis 4 jours, il y va régulièrement entendre la messe. Dieu veuille que cela dure. Quand je suis entrée, il est venu à moi et m'a félicité affectueusement sur le meilleur état de ma santé. Comme la messe commençait, j'ai abrégé la conversation, que je comptais bien reprendre après. Mais il a disparu avant que j'aie pu le joindre. Je ne vous cacherai pas que je l'ai trouvé un peu changé. Mais, ma chère belle, ne me faites pas repentir de ma confiance en votre raison, par des inquiétudes trop vives. Et surtout, soyez sûre que j'aimerais encore mieux vous affliger que vous tromper. Si mon neveu continue à me tenir rigueur, je prendrai le parti, aussitôt que je serai mieux, de l'aller voir dans sa chambre. Et je tâcherai de pénétrer la cause de cette singulière manie, dans laquelle je crois bien que vous êtes pour quelque chose. Je vous demanderai ce que j'aurai appris. Je vous quitte, ne pouvant plus remuer les doigts. Et puis, si Adélaïde savait que j'ai écrit, elle me gronderait toute la soirée. Adieu, ma chère belle. Lettre 120. Le vicomte de Valmont au père Anselme, feuillant du couvent de la rue Saint-Honoré. Je n'ai pas l'honneur d'être connu de vous, monsieur, mais je sais la confiance entière qu'a en vous madame la présidente de Tourvel, et je sais de plus combien cette confiance est dignement placée. Je crois donc pouvoir, sans indiscrétion, m'adresser à vous pour en obtenir un service bien essentiel, vraiment digne de votre saint ministère, et où l'intérêt de madame de Tourvel se trouve joint au mien. J'ai entre les mains des papiers importants qui la concernent, qui ne peuvent être confiées à personne et que je ne dois ni ne veux remettre qu'entre ses mains. Je n'ai aucun moyen de l'en instruire parce que des raisons que peut-être vous aurez su d'elle, mais dont je ne crois pas qu'il me soit permis de vous instruire, lui ont fait prendre le parti de refuser toute correspondance avec moi. Parti que j'avoue volontiers aujourd'hui ne pouvoir blâmer, puisqu'elle ne pouvait prévoir des événements auxquels j'étais moi-même bien loin de m'attendre, et qui n'étaient possibles qu'à la force plus qu'humaine qu'on est forcé d'y reconnaître. Je vous prie donc, monsieur, de vouloir bien l'informer de mes nouvelles résolutions et de lui demander pour moi une entrevue particulière où je puisse au moins réparer, en partie, mes torts par mes excuses. Et, pour dernier sacrifice, anéantir à ses yeux les seules traces existantes d'une erreur ou d'une faute qui m'avait rendu coupable envers elle. Ce ne sera qu'après cette expiation préliminaire que j'oserai déposer à vos pieds l'humiliant aveu de mes longs égarements et implorer votre médiation pour une réconciliation bien plus importante encore et malheureusement plus difficile. Puis-je espérer, monsieur, que vous ne me refuserez pas des soins si nécessaires et si précieux, et que vous daignerez soutenir ma faiblesse et guider mes pas dans un sentier nouveau que je désire bien ardemment suivre, mais que j'avoue en rougissant ne pas connaître encore. J'attends votre réponse avec l'impatience du repentir qui désire de réparer, et je vous prie de me croire avec autant de reconnaissance que de vénération. Votre très humble. Post-scriptum. Je vous autorise, monsieur, au cas où vous le jugiez convenable, à communiquer cette lettre en entier à Madame de Tourvel, que je me ferai toute ma vie un devoir de respecter, et en qui je ne cesserai jamais d'honorer celle dont le ciel s'est servi pour ramener mon âme à la vertu par le touchant spectacle de la sienne. Lettre 121. La marquise de Merteuil au chevalier Danceny. J'ai reçu votre lettre, mon trop jeune ami. Mais avant de vous remercier, il faut que je vous gronde et je vous préviens que si vous ne vous corrigez pas, vous n'aurez plus de réponse de moi. Quittez donc, si vous m'en croyez, ce ton de cajolerie qui n'est plus que du jargon dès qu'il n'est pas l'expression de l'amour. Est-ce donc là le style de l'amitié? Non, mon ami. Chaque sentiment a son langage qui lui convient. Et se servir d'un autre, c'est déguiser la pensée que l'on exprime. Je sais bien que nos petites femmes n'entendent rien de ce qu'on peut leur dire, s'il n'est traduit, en quelque sorte, dans ce jargon d'usage. Mais je croyais mériter, je l'avoue, que vous me distinguiez assez d'elles. Je suis vraiment fâchée, et peut-être plus que je ne devrais l'être, que vous m'ayez si mal jugée. Vous ne trouverez donc dans ma lettre que ce qui manque à la vôtre, franchise et simplesse. Je vous dirai bien, par exemple, que j'aurai grand plaisir à vous voir, et que je suis contrariée de n'avoir auprès de moi que des gens qui m'ennuient, au lieu de gens qui me plaisent. Mais vous, cette même phrase, vous la traduisez ainsi. Apprenez-moi à vivre où vous n'êtes pas. En sorte que quand vous serez, je suppose, auprès de votre maîtresse, vous ne sauriez pas y vivre que je n'y sois entière. Quelle pitié! Et ces femmes, à qui il manque toujours d'être moi? Vous trouvez peut-être aussi que cela manque à votre Cécile? Voilà pourtant où conduit un langage qui, par l'abus qu'on en fait aujourd'hui, est encore au-dessous du jargon des compliments et ne devient plus qu'un simple protocole auquel on ne croit pas davantage qu'au très humble serviteur. Mon ami, quand vous m'écrirez, que ce soit pour me dire votre façon de penser et de sentir, et non pour m'envoyer des phrases que je trouverai, sans vous, plus ou moins bien dites dans le premier roman du jour. J'espère que vous ne vous fâcherez pas de ce que je vous dis là, quand même vous y verriez un peu d'humeur, car je ne nie pas d'en avoir. Mais pour éviter jusqu'à l'air du défaut que je vous reproche, je ne vous dirai pas que cette humeur-là est peut-être un peu augmentée par l'éloignement où je suis de vous. Il me semble qu'à tout prendre, vous valez mieux qu'un procès et deux avocats, et peut-être même encore que l'attentif Belleroche. Vous voyez qu'au lieu de vous désoler de mon absence, vous devriez vous en féliciter, car jamais je ne vous ai fait un si beau compliment. Je crois que l'exemple me gagne et que je veux vous dire aussi des cajoleries. Mais non, j'aime mieux m'en tenir à ma franchise. C'est donc elle seule qui vous assure de ma tendre amitié et de l'intérêt qu'elle m'inspire. Il est fort doux d'avoir un jeune ami dont le cœur est occupé ailleurs. Ce n'est pas là le système de toutes les femmes, mais c'est le mien. Il me semble qu'on se livre avec plus de plaisir à un sentiment dont on ne peut rien avoir à craindre. Aussi, j'ai passé pour vous d'assez bonnes heures, peut-être, au rôle de confidente. Mais vous choisissez vos maîtresses si jeunes que vous m'avez fait apercevoir pour la première fois que je commence à être vieille. C'est bien fait à vous de vous préparer ainsi une longue carrière de constance, et je vous souhaite de tout mon cœur qu'elle soit réciproque. Vous avez raison de vous rendre aux motifs tendres et honnêtes qui, à ce que vous me demandez, retardent votre bonheur. La longue défense est le seul mérite qui reste à celle qui ne résiste pas toujours. Et ce que je trouverais impardonnable à tout autre qu'un enfant comme la petite Volange serait de ne pas savoir fuir un danger dont elle a été suffisamment avertie par l'aveu qu'elle a fait de son amour. Vous autres hommes, vous n'avez pas d'idée de ce qu'est la vertu et de ce qu'il en coûte pour la sacrifier. Mais pour peu qu'une femme raisonne, elle doit savoir qu'indépendamment de la faute qu'elle commet, une faiblesse est pour elle le plus grand des malheurs. Et je ne conçois pas qu'aucune s'y laisse jamais prendre, quand elle peut avoir un moment pour y réfléchir. N'allez pas combattre cette idée, car c'est elle qui m'attache principalement à vous. Vous me sauverez des dangers de l'amour, et quoique j'aie bien su sans vous m'en défendre jusqu'à présent, je consens à en avoir de la reconnaissance, et je vous en aimerai mieux et davantage. Sur ce, mon cher chevalier, je prie Dieu qu'il vous ait en sa sainte et digne garde. Lettre 122. Madame de Rosemonde à la présidente de Tourvel. J'espérais, mon aimable fille, pouvoir enfin calmer vos inquiétudes, et je vois au contraire avec chagrin que je vais les augmenter encore. Calmez-vous cependant, mon neveu n'est pas en danger. On ne peut pas même dire qu'il soit réellement malade. Mais il se passe sûrement en lui quelque chose d'extraordinaire. Je n'y comprends rien. Mais je suis sortie de sa chambre avec un sentiment de tristesse, peut-être même d'effroi, que je me reproche de vous faire partager, et dont cependant je ne puis m'empêcher de causer avec vous. Voici le récit de ce qui s'est passé. vous pouvez être sûr qu'il est fidèle. Car je vivrai 80 autres années que je n'oublierai pas l'impression que m'a faite cette triste scène. J'ai donc été ce matin chez mon neveu. Je l'ai trouvé écrivant et entouré de différents tas de papiers qui avaient l'air d'être l'objet de son travail. Il s'en occupait au point que j'étais déjà au milieu de sa chambre, qui n'avait pas encore tourné la tête pour savoir qui entrait. Aussitôt qu'il m'a aperçu, j'ai très bien remarqué qu'en se levant, il s'efforçait de composer sa figure, et peut-être même est-ce là ce qui m'y a fait faire plus d'attention. Il était, à la vérité, sans toilette et sans poudre, mais je l'ai trouvé pâle et défait, et ayant surtout la physionomie altérée. Son regard, que nous avons vu si vif et si gai, était triste et abattu. Enfin, soit dit entre nous, je n'aurais pas voulu que vous le vissiez ainsi. Car il avait l'air très touchant et très propre, à ce que je crois, à inspirer cette tendre pitié qui est un des plus dangereux pièges de l'amour. Quoique frappé de mes remarques, j'ai pourtant commencé la conversation comme si je ne m'étais aperçu de rien. Je lui ai d'abord parlé de sa santé, et sans me dire qu'elle soit bonne, il ne m'a point articulé pourtant qu'elle fût mauvaise. Alors je me suis plainte de sa retraite, qui avait un peu l'air d'une manie, et je tâchais de mêler un peu de gaieté à ma petite réprimande. Mais lui m'a répondu seulement, d'un ton pénétré, « C'est un tort de plus, je l'avoue, mais il sera réparé avec les autres. » Son air, plus encore que ses discours, a un peu dérangé mon enjouement, et je me suis hâtée de lui dire qu'il mettait trop d'importance à un simple reproche de l'amitié. Nous nous sommes donc remis à causer tranquillement. Il m'a dit, peu de temps après, que peut-être une affaire, la plus grande affaire de sa vie, le rappellerait bientôt à Paris. Mais comme j'avais peur de la deviner, ma chère belle, et que ce début ne me mena à une confidence dont je ne voulais pas, je ne lui ai fait aucune question, et je me suis contentée de lui répondre que plus de dissipation serait utile à sa santé. J'ai ajouté que, pour cette fois, je ne lui ferai aucune instance, aimant mes amis pour eux-mêmes. C'est à cette phrase si simple que, serrant mes mains et parlant avec une véhémence que je ne puis vous rendre, « Oui, ma tante, m'a-t-il dit, aimez beaucoup un neveu qui vous respecte et vous chérit, et, comme vous dites, aimez-le pour lui-même. Ne vous affligez pas de son bonheur, et ne troublez par aucun regret l'éternelle tranquillité dont il espère jouir bientôt. Répétez-moi que vous m'aimez, que vous me pardonnez. Oui, vous me pardonnerez. Je connais votre bonté, mais comment espérer la même indulgence de ceux que j'ai tant offensés ?» Alors il s'est baissé sur moi, pour me cacher, je crois, des marques de douleur que le son de sa voix me décelait malgré lui. Ému plus que je ne puis vous dire, je me suis levée précipitamment. Et sans doute a-t-il remarqué mon effroi, car sur le champ, se composant davantage, « Pardon, a-t-il repris, pardon, madame, je sens que je m'égare malgré moi. Je vous prie d'oublier mes discours et de vous souvenir seulement de mon profond respect. Je ne manquerai pas, a-t-il ajouté, d'aller vous en renouveler l'hommage avant mon départ. » Il m'a semblé que cette dernière phrase m'engageait à terminer ma visite, et je me suis en allée, en effet. Mais plus j'y réfléchis, et moins je devine ce qu'il a voulu dire. Quelle est cette affaire, la plus grande de sa vie? À quel sujet me demande-t-il pardon? D'où lui est venu cet attendrissement, involontaire, me parlant? Je me suis déjà fait ces questions mille fois, sans pouvoir y répondre. Je ne vois même rien là qui ait rapport à vous. Cependant, comme les yeux de l'amour sont plus clairvoyants que ceux de l'amitié, je n'ai voulu vous laisser rien ignorer de ce qui s'est passé entre mon neveu et moi. Je me suis reprise à quatre fois pour écrire cette longue lettre, que je ferai plus longue encore, sans la fatigue que je ressens. Adieu, ma chère belle. Lettre 123. Le père Anselme au vicomte de Valmont. J'ai reçu, monsieur le vicomte, la lettre dont vous m'avez honoré. Et dès hier, je me suis transportée, suivant vos désirs, chez la personne en question. Je lui ai exposé l'objet et les motifs de la démarche que vous demandiez de faire auprès d'elle. Quelque attachée que je l'ai trouvée au parti sage qu'elle avait pris d'abord, sur ce que je lui ai remontré qu'elle risquait peut-être, par son refus, de mettre obstacle à votre retour, et de s'opposer ainsi, en quelque sorte, aux vues miséricordieuses de la Providence, elle a consenti à recevoir votre visite, à condition toutefois que ce sera la dernière, et m'a chargée de vous annoncer qu'elle serait chez elle jeudi prochain, 28. Si ce jour ne pouvait pas vous convenir, vous voudrez bien l'en informer et lui en indiquer un autre. Votre lettre sera reçue. Cependant, monsieur le vicomte, permettez-moi de vous inviter à ne pas différer sans de fortes raisons, afin de pouvoir vous livrer plus tôt et plus entièrement aux dispositions louables que vous me témoignez. Songez que celui qui tarde à profiter du moment de la grâce s'expose à ce qu'elle lui soit retirée. Que si la bonté divine est infinie, l'usage en est pourtant réglé par la justice, et qu'il peut venir un moment où le Dieu de miséricorde se change en un Dieu de vengeance. Si vous continuez à m'honorer de votre confiance, je vous prie de croire que tous mes soins vous seront acquis, aussitôt que vous le désirerez. Quelque grande que soient mes occupations, mon affaire la plus importante sera toujours de remplir les devoirs du Saint ministère, auquel je me suis particulièrement dévoué. Et le moment le plus beau de ma vie, celui où je verrai mes efforts prospérer par la bénédiction du Tout-Puissant. Faibles pécheurs que nous sommes, nous ne pouvons rien par nous-mêmes. Mais le Dieu qui vous rappelle peut tout. Et nous devrons également à sa bonté, vous, le désir constant de vous rejoindre à lui, et moi, les moyens de vous y conduire. C'est avec son secours que j'espère vous convaincre bientôt que la religion sainte peut donner seule, même en ce monde, le bonheur solide et durable qu'on cherche vainement dans l'aveuglement des passions humaines. J'ai l'honneur d'être avec une respectueuse considération. I hope it doesn't show, it'll go away. It's just a passing phase, it'll go away. You can't dress nautical, learn to tie knots. Take lots of Dramamine out on your yacht. But when you're all alone and nothing bites, you'd wish you'd stayed at home with someone nice. But when you think you made it disappear, it comes again, hello. On yellow pads. And so no one knows what you just said. But when you're all alone, you and your head, what's the computer say? It's mumbling now, it says a joke, it's spelled it out, and you've got a place in your disappear. You sure you made it disappear, and you still got angst in your hands. I hope it doesn't show, it'll go away. It's just a passing phase, it'll go away.